Décryptage, Marie Cazadebé.
En 2018, près de 12 millions d'hectares de forêts tropicales ont disparu, rayés de la carte, l'équivalent de la superficie de la Belgique. C'est la conclusion du dernier rapport du World Resources Institute, un groupe de recherche américain qui observe le patrimoine naturel mondial. Dans les détails, la déforestation ralentit au Brésil et en Indonésie, toujours parmi les plus mauvais élèves. Mais certains pays font leur apparition dans ce triste classement. Et en tête, des pays africains, le Ghana et la Côte d'Ivoire, où les destructions s'accélèrent. Alors pour quelles raisons et pour quelles conséquences, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Bienvenue dans Décryptage. Bonsoir Ethel Igoné.
Bonsoir, ravie d'être là.
Merci à vous d'être en ligne avec nous de New York. Vous êtes directrice de campagne pour l'ONG environnementale Mighty Earth. Votre association suit de près l'évolution de la déforestation, notamment en Côte d'Ivoire et au Ghana. Et bonsoir Eric Gatchou.
Bonsoir madame.
Vous êtes en ligne avec nous de Yaoundé au Cameroun. Vous êtes en charge des opérations sur l'Afrique pour Earthworm Foundation, une ONG qui cherche des solutions pour limiter l'impact de l'homme sur la nature. La forêt a longtemps été au cœur de l'action de votre association. Alors dans ce rapport du World Resources Institute, ce sont les destructions de forêts primaires qui sont recensées. Erit Gatchou, qu'appelle-t-on une forêt primaire ?
Alors, quand on parle de forêt primaire, alors il y a plusieurs définitions. Les forêts qui sont ici indiquées sont notamment des forêts, des reliques de forêts sur le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui sont restées des pôles ainsi de biodiversité, qui sont notamment les parcs nationaux, les réserves forestières, y compris certains de leurs alentours. Quand on parle de forêts primaires dans ces contextes-là, il s'agit donc des parcs nationaux et des réserves forestières.
Ça veut dire que les hommes jusque-là n'avaient pas agi sur ces forêts-là, ne les avaient pas exploitées notamment ?
Alors là, il faut faire très attention justement, parce que quand on parle de perturbation de forêt, il faut quand même se dire que toutes ces forêts ont été relativement perturbées par les activités anthropiques par le passé, et en plus il y a eu un découpage et un classement en réserve forestière ou en parc national. Donc c'est des forêts qui ont connu une relative perturbation par le passé.
Pourquoi sont-elles si précieuses encore aujourd'hui? C'est leur biodiversité qui est exceptionnelle.
Elles sont si précieuses parce que, notamment quand on parle de la Côte d'Ivoire et du Ghana, il s'agit des forêts qui regorgent encore un certain nombre d'espèces animales ou d'espèces floristiques qui sont notamment classées comme menacées ou en voie de disparition. Au niveau de la planète, quoi.
Ethel Igoné, en 2002, deux pays étaient le théâtre à eux seuls de plus des deux tiers du recul de la forêt tropicale primaire. Alors, c'était le Brésil et l'Indonésie. En 2018, on s'aperçoit que ces pays ne représentent plus que la moitié des pertes de forêt. Est-ce que cela veut dire qu'ils ont fait des efforts ou que d'autres pays ont au contraire détruit davantage leurs forêts ?
C'est plutôt que d'autres pays ont davantage détruit leurs forêts, surtout en Amérique latine et en Afrique de l'Ouest. Vous parliez tantôt de Ghana et Côte d'Ivoire, mais bien sûr aussi, nous avons d'autres pays africains en tête pour la déforestation accrue, le rythme qui s'accroît en Angola, au Liberia, Tanzanie, RDC. Mais je crois qu'il y a un pays qui a fait vraiment un bon pas, c'est l'Indonésie qui voit une baisse dans le rythme des déforestations et qui vraiment devient moins important par rapport au volume qu'il ne l'était avant. Cela dit, le Brésil est absolument sur le mauvais chemin. Donc je pense qu'il faut séparer le Brésil et l'Indonésie. On ne peut pas parler de Bolsonaro et de Jokowi dans la même parole, dans la même.
Oui, date. Puisque ces chiffres, de toute façon, et ce rapport remontent à une période où Bolsonaro n'était pas encore président du Brésil. Donc, on attend de savoir quelle sera sa politique en faveur ou en défaveur de l'Amazonie. Mais dans ce classement, lors des plus mauvais élèves en 2018, on a donc le Ghana et la Côte d'Ivoire qui occupent les premières places. C'est une première. Avec les plus forts pourcentages de pertes de forêt en un an, 60 et 27% donc respectivement pour le Ghana et la Côte d'Ivoire. Comment doit-on comprendre ces chiffres, Ethel Igoné ? Ils montrent l'accélération de la destruction ?
Exactement. Et non seulement ils montrent une accélération de la destruction, mais on peut dire que cette accélération est si forte est si énorme en comparaison aux autres pays qui sont derrière, qu'il y a clairement une volonté ou une incapacité, ou les deux, dans les deux gouvernements. Les gouvernements ghanéens et ivoiriens sont absolument responsables. On ne pourrait pas avoir une accélération comme ça sans la volonté du gouvernement derrière. Donc ça, c'est la première chose. Et la seconde chose qu'on peut voir, c'est que franchement, je ne crois pas tellement aux coïncidences, ni au Père Noël, ni au lapin de Pâques. Le fait que les deux premiers pays qui sont en train de gagner les Jeux olympiques de déforestation avec la coupe, avec l'or et l'argent, c'est-à-dire le Ghana en premier lieu et la Côte d'Ivoire en second lieu, comment est-ce possible que ces deux pays soient aussi les premiers et seconds producteurs de cacao au monde? Franchement, ce n'est pas que les gouvernements qui sont clairement responsables de cette catastrophe pour les forêts, c'est aussi une industrie du cacao rapace qui détruit les forêts de façon légale et illégale depuis des décennies.
Erit Ngachou, forêts tropicales et cacaoyers ne font pas bon ménage, ils ne peuvent pas se côtoyer, il faut en supprimer un pour faire pousser l'autre.
Alors, il faut distinguer plusieurs cas. Dans le cas de la Côte d'Ivoire et du Ghana, qui sont des pays d'Afrique de l'Ouest, on assiste effectivement à ce qu'on peut appeler un problème de saturation foncière et donc une réelle pression sur des reliques forestières qui existent aujourd'hui, y compris des zones classées comme des réserves ou des parcs nationaux. Donc, il s'agit donc clairement d'une question de saturation foncière. Alors, parlant du cacao, l'enjeu va clairement au-delà du secteur privé, bien qu'on ne peut pas éloigner ces grands acheteurs de cacao, les multinationales, on peut pas les épargner. Il s'agit clairement d'embarquer, y compris ces gouvernements, dans des solutions qui touchent à l'aménagement du territoire. Parce que, comme je l'ai dit dans mon propos introductif, il est question d'adresser la question de la saturation foncière avec des techniques plus poussées, plus récentes concernant les méthodes de production. Réfléchis par exemple à de l'agroforesterie. C'est tout à fait possible dans le cas de l'Afrique de l'Ouest, ce qui n'est pas encore le cas quand on parle de la cacaoculture en Afrique centrale ou à Madagascar, par exemple, où c'est clairement des systèmes agroforestiers, quoi.
Et Taligone, ça veut dire que c'est vraiment la pression économique là qui pèse. Il faut quand même rappeler que la filière cacao représente 10% du produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire. Il emploie 4 millions de personnes. C'est cette pression-là qui explique le recul aujourd'hui de la forêt dans ce pays.
En gros, oui. Parce que ce n'est pas possible que ce soit une coïncidence que le Ghana et la Côte d'Ivoire se retrouvent en premier et en seconde place pour avoir gagné la Coupe d'Afrique ou les Jeux Olympiques de déforestation. C'est juste pas possible d'avoir une coïncidence comme ça. Pour vous donner une idée de à quel point c'est pas une coïncidence, RDC, qui est pourtant parmi les 10 pires, a un taux de croissance de déforestation de 2% et le Ghana 60%. Donc le Ghana est 30 fois pire que la République démocratique du Congo, un pays qui a bon nombre de problèmes comme l'Ebola et comme la guerre civile. Donc on peut dire que clairement, voilà, les chiffres parlent. Et je réconforte ce que dit Eric. L'industrie, et pour répondre à votre question, cette industrie du cacao, elle a été rapace pour les forêts. Elle a poussé tous ces millions de producteurs auxquels vous avez fait allusion à planter un cacao plein soleil. Cacao destructeur de monoculture plein soleil, tandis qu'en fait, à l'origine, le cacao aime la forêt. Le cacao veut être dans un système respectueux de la nature, dans un système qui s'appelle l'agroforesterie. Le cacao peut très bien croître et être dans une situation de 30 à 40% d'ombre, sans perdre de productivité nécessairement. Donc c'est une volonté de l'industrie, non seulement de détruire les forêts, mais d'aller jusqu'au bas. C'est-à-dire, au lieu de détruire la forêt et aller vers l'agroforesterie, littéralement, ils plombent la tranchée de Marianne. Ils vont jusqu'à la monoculture destructrice, la pire chose de tout.
On va revenir sur cette pratique un peu plus tard, l'agroforesterie. Mais en Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez publié en décembre dernier un rapport sur l'impact de l'extension de la cacaoculture donc en Côte d'Ivoire. Les cultures cacaoyères, est-ce qu'elles respectent une législation qui est trop laxiste, pas assez respectueuse de la biodiversité, ou est-ce qu'elles enfreignent tout simplement les règles de préservation de la forêt?
Les deux. la loi ivoirienne et la loi ghanéenne sont très faibles par rapport à la monoculture et l'agroforesterie, mais aussi très faibles par rapport à la déforestation. Et la mise en œuvre, l'implémentation de la loi est très faible aussi, et au Ghana et en Côte d'Ivoire. Et nous voyons maintenant clairement, les chiffres parlent, l'industrie aussi très faible par rapport à la mise en œuvre de toutes les multiples promesses qu'ils nous ont faites. Depuis 2 ans, ça n'arrête pas, on va faire ça, finalement rien n'est fait.
Puisqu'en novembre 2017, en marge de la COP23, c'est l'initiative forêt et cacao qui était signée par une trentaine de compagnies. Elle s'engageait à protéger la nature. La forêt, pour l'instant, les effets ne sont pas là.
Exactement. Vous avez des promesses superbes, les plus belles promesses possibles. On va arrêter la déforestation, on va passer de la monoculture vers l'agroforesterie. Nous aurons la traçabilité, la transparence. On va gérer le problème des 2 millions d'enfants qui travaillent dans le cacao. Ces promesses, je suis désolée, elles ont été faites en novembre 2017. Ça fait un bail. On attend jusqu'à présent. Au lieu de voir une amélioration, on voit que les choses s'empirent. Et elles s'empirent à un rythme si grave que la Côte d'Ivoire et le Ghana sont en seconde et en première place au monde. Ce sont les pires élèves. Donc clairement, ouais. Les promesses...
Les signataires justement de cette initiative se sont retrouvés il y a un peu moins de 2 mois pour définir le premier plan d'action donc de cette initiative Forêt et Cacao. Joachim Munoz est le directeur du développement durable de CEMOA, c'est l'une des entreprises de cette filière ivoirienne.
On accompagne les coopératives et les planteurs à utiliser des outils modernes de traçage de fèves. Si un planteur par exemple vous amène 5 tonnes en fait, vous n'avez acheté que dans le passé une tonne, vous avez bien un problème en fait dans le calcul évidemment. Un deuxième point, c'est accompagner les coopératives et les planteurs à identifier les zones qui sont des zones à préserver. Le troisième volet, c'est tout ce qui concerne la géolocalisation et l'identification précise en fait des zones de production avec les coopératives et d'éviter que ces zones de production soient en forêt classée.
Erit Ngachou, est-ce que ça va dans le bon sens que propose donc le directeur du développement durable de CEMOA? C'est a priori, là, ça y est, ils prennent la bonne voie pour éviter la déforestation?
Alors, effectivement, la traçabilité est une étape clé parce qu'il s'agit, dans la traçabilité, il s'agit de tracer l'origine des produits parce qu'on ne peut parler de déforestation liée à un produit que si on trace effectivement l'historique du produit, notamment dans les zones géographiques où ces produits-là proviennent. Donc la traçabilité, effectivement, c'est une étape importante. Donc ce que nous faisons dans notre organisation, c'est effectivement d'aider les compagnies à déjà déployer, à faire un peu plus de la transparence, à cartographier les zones d'où viennent ces fèves-là. Donc derrière les coopératives, y compris les planteurs, c'est ce que vient d'expliquer M. Joachim Munoz de CEMOA. Et puis derrière, une fois que cette transparence est établie, on doit pouvoir engager un plan d'action pour remédier aux dégâts. Déjà limiter de façon stricte les approvisionnements provenant des zones forestières nouvellement établies. Ça, c'est encore quelque chose qui est difficile à mettre en place, mais c'est clairement le message qu'il faut passer. Mais je dirais que la cacaoculture aujourd'hui, c'est la déforestation relative à la cacaoculture, c'est un enjeu qui est nouveau, notamment par rapport, quand je dis nouveau, c'est par rapport au dernier rapport de Mighty Earth en 2017. Donc il y a une prise de conscience, mais de là à mettre en œuvre et obtenir des résultats de façon concrète après 2 ans, on en est encore loin.
Et Taligone, à l'autre bout de la chaîne, les industriels sont-ils inquiétés lorsqu'ils utilisent des produits ayant contribué à la déforestation? On assiste quand même à de plus en plus d'industriels qui sont soucieux de leur image, notamment envers l'environnement. Est-ce que ça peut marcher? Est-ce qu'ils peuvent justement devenir soucieux de l'origine de leurs produits?
Eh bien écoutez, oui, et je crois qu'il faut faire la part des choses entre les compagnies plus responsables et les compagnies moins responsables. Donc par exemple, CEMOA et Lint, CEMOA français, Lint suisse, font partie des compagnies qui vraiment ont fait des efforts, sont en train de faire des efforts. En revanche, il y a d'autres compagnies beaucoup moins soucieuses de ce qu'elles font, ni de leur image, ni même de la réalité. Et là, je crois que la pire compagnie, celle à laquelle nous avons attribué le prix de la pire compagnie cacao au monde pour Pâques, là, tout récemment, c'est Sucdène, Sucré Denrée, une compagnie française. Donc nous estimons qu'elle est la pire pour beaucoup de raisons. Manque de traçabilité, mensongère, obfuscatoire, rapace. Se désintéressant véritablement aux problématiques et du travail des enfants, de l'esclavage, du trafic des êtres humains et de la déforestation. Mais nous pouvons aussi citer des compagnies plus connues, Sucré Denrée, pas très très connue en France, même si c'est parmi les trois plus grandes compagnies de sucre et une des grandes compagnies de cacao au monde. Mais parlons de Nutella.
Et ces entreprises, alors, ne risquent rien lorsque même on peut retracer leur produit de base, savoir qu'ils enfreignent une loi. Ces entreprises ne risquent rien à les utiliser.
Jusqu'à ce que les enfants et les parents qui sont en train d'aller acheter le Nutella disent à Ferrero, arrêtez vos délires, faites des programmes corrects, protégez les forêts, arrêtez d'utiliser le travail des enfants, l'esclavage, donnez-nous la traçabilité, prouvez-nous que vous êtes clean. Jusqu'au moment où le consommateur lambda français prend conscience de son pouvoir avec son portefeuille pour voter avec le cœur et acheter avec le cœur, que ce soit à Pâques ou à Noël ou autre, je crois que les compagnies comme Nutella vont continuer à faire n'importe quoi parce qu'ils ne sont pas inquiétés. Et franchement, nous, on n'arrête pas de leur dire qu'ils ont un problème. Donc ils savent très bien, ils savent parfaitement. Nutella, Sucré Denrée sont parfaitement conscients du problème, mais ils s'en fichent. Pourquoi ? Parce que les consommateurs ne font pas une pression.
Erit Ngachou, pour revenir aux effets sur le climat ou même la biodiversité dans ces deux pays, le Ghana, la Côte d'Ivoire, la forêt n'a pas été détruite en faveur de construction, de villes, de routes. En résumé, les zones en question ne sont pas transformées en zones bétonnées. Mais quel changement entraîne un tel bouleversement de paysage, d'une forêt équatoriale à des cacaoyers ?
Je pense que ce qui reste constant au sorti des échanges avec les cacaoculteurs, c'est-à-dire les producteurs eux-mêmes à la base, c'est qu'ils prennent conscience qu'effectivement qu'il y a une perturbation au niveau des rythmes climatiques, des saisons, c'est leur façon d'exprimer. Donc effectivement, à leur niveau, il y a des changements qui sont palpables. Quand on réfléchit ensemble sur les solutions possibles. Voilà, c'est ce que je dirais. Mais de manière générale sur la Côte d'Ivoire et Ghana, on le sent quand on part du Ghana, on traverse la Côte d'Ivoire et on arrive au Libéria, où ce phénomène est moins prononcé. On voit très vite un changement, quoi. Un changement en termes de temps et de température, tout simplement. Il fait nettement plus frais quand on rentre au Libéria, quand on traverse la rivière Cavalli en venant du Ghana ou de Côte d'Ivoire.
Est-ce que ça veut dire que finalement d'avoir détruit cette forêt pourrait un jour avoir un impact même sur les cultures qui ont pris place ? Est-ce qu'un jour ça pourrait se retourner contre les cultures par exemple de cacaoyers ?
Je pense que en réalité aujourd'hui, parce que les systèmes agroforestiers, c'est des systèmes de production relativement complexes, on se retrouve aujourd'hui dans des situations où les cacaoculteurs utilisent, par exemple, beaucoup d'intrants, beaucoup d'engrais, effectivement, pour remonter le niveau des sols et tout ça. Et à la fin, c'est des sols qui en souffrent, ce qui est moins le cas dans des systèmes agroforestiers où il y a une relative compensation, je dirais, en apport au niveau des sols.
L'agroforesterie, on l'a évoqué déjà, en tout cas c'est le mot d'ordre qui a été lancé par le gouvernement ivoirien en novembre dernier, c'était en pleine COP24 en Pologne. Le choix donc de l'agroforesterie pour que forêt et culture puissent s'unir et vivre ensemble. Merci à tous les deux, Erit Ngachou de l'ONG Earthworm Foundation et merci Ethel Igoné de l'ONG Mighty Earth. Merci aussi à toute l'équipe de décryptage, Louise Kaledek, Vanadis Feuille, Simon Carteret et Hélène Avril. Tout de suite, un point sur l'actualité.